des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
C'est rare, Germain, qu'on parle de carrosserie, du métier de carrossier, parce que on dirait que c'est un métier qui se pratique un peu dans l'ombre. Hein. Les gens ne mettent pas le pied dans un atelier de carrosserie, souvent ne voient pas les rouages du fonctionnement d'un atelier comme ça. Et aujourd'hui, j'ai choisi de discuter avec Valérie Brunet, qui gère un atelier Fix Auto sur la rive sud de Montréal. Bonjour, Valérie.
Bienvenue parmi nous.
Bon. Merci.
Bien, je pense d'abord que ça serait intéressant de parler de ton background parce que, évidemment, avant de gérer un atelier de carrosserie, tu en as toi-même fait. Alors, explique-moi un peu ton background, comment tout ça a commencé pour toi.
Bien, en fait, je viens d'une famille dont mon père était carrossier à la base. Donc, je l'ai vu là, depuis mon jeune âge. J'ai décidé de faire mon DEP en carrosserie en 2007-2008 en travail alternance-études. Donc, je suis partie à quelques stages en carrosserie pour ensuite travailler presque 2-3 ans là, avec lui comme débasseur peintre pour ensuite aller faire mon cours là, de d'estimation là où est-ce que j'ai été engagée ici chez Fix Auto Saint-Jean en 2011.
OK.
Donc, j'ai commencé comme estimatrice ici à la base. Là.
Donc, tu n'as pas fait de carrosserie où tu te trouves présentement, tu en as fait dans le passé.
Exactement.
OK. Bon, évidemment... Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le métier de carrossier au fil des années, technologie qui a évolué, les types de matériaux, le métier a changé, il y a plus d'apprentissage, il y a plus de formation. Comment tu as vu évoluer ça, toi, au fil des années?
En grande partie, c'est vraiment la technologie là, qui a grandement amélioré. En fait, là, ce qui rend le métier de carrossier beaucoup plus complexe qu'avant. Là. Donc, changer un phare, on pouvait faire ça rapidement avant. Maintenant, il faut penser à beaucoup plus de choses. Là. Que ça soit des capteurs, que ça soit des radars, tu sais, toutes des calibrations là, qui se fait par la suite. Donc, c'est tout ça qu'il faut tenir en ligne de compte maintenant qu'avant, c'était beaucoup moins technologique. Là.
Il y a différents matériaux aussi avec lesquels vous travaillez. Bon, on va avoir polymère, aluminium, acier sur un même véhicule. Est-ce que ça complexifie le travail?
Oui, en fait, il faut vraiment se baser avec les normes du manufacturier là, quand on répare des véhicules. Il n'y a plus rien qui se fait à peu près. Il faut aller avec les normes du manufacturier, là, comme je le disais précédemment, que ce soit en termes des métaux, que ce soit un acier qui est à haute résistance versus un acier ordinaire, ben c'est pas les mêmes. Faut pas prendre les mêmes outils, faut pas le même chauffage. Donc tout ça, faut suivre les normes pour faire une réparation de qualité. Là.
Et puis je présume que dans le métier de carrossier et peut-être encore plus dans celui de gestionnaire dans le domaine de la carrosserie, une bonne part du travail, c'est de la négociation entre autres avec des compagnies d'assurance. Comment tout ça se déroule?
Il n'y a pas beaucoup de négociations en tant que telles, là, parce que tout est déjà établi avec les normes GA, avec les normes assureurs. Donc, tout est préétabli. Il faut vraiment suivre les protocoles. Du moment là, qu'il y a une pièce à remplacer sur un véhicule, comme je le disais, on suit aux normes du manufacturier. On a les normes GA aussi à suivre. Puis, à partir de là, ben, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre.
Autrement dit, c'est les assureurs qui vont fixer les montants, les règles. C'est eux qui ont le gros bout du bâton. Puis vous, vous profitez de tout le travail qu'ils vont vous envoyer, du référencement dans le fond. Là.
Exactement. Il y a les bannières là, qui vont prendre des ententes avec les assurances au niveau des taux horaires et tout ça. Donc, à partir de là, une fois que les ententes sont prises, on les suit. Sinon, pour ce qui est du reste du temps de jugement pour les réparations, là, c'est vraiment selon le jugement de l'estimateur en atelier. On est généralement en réseau confiance avec plusieurs assureurs, donc ils nous font confiance. On prend certaines photos, on leur envoie tout ça avec notre estimation. Donc, tout est justifié à partir de là. Puis, c'est vraiment un système de confiance entre les deux. Là.
Puis, un propriétaire de véhicule qui subirait un accident et qui ferait une réclamation à ses assurances, peut-il lui-même choisir son atelier de carrosserie ou doit se rendre chez l'atelier qui est mandaté par la compagnie d'assurance?
Le propriétaire du véhicule a le dernier mot sur l'atelier qui sélectionne. C'est certain qu'il va être référé par l'assurance. Ils vont donner trois ateliers avec qui ils font affaire, qui offrent des garanties. Donc, c'est sûr que ça peut aider le choix du client, mais au bout de la ligne, c'est toujours le client qui a le dernier mot de choisir son carrossier, là.
Mais il n'en demeure pas moins que d'avoir une bannière et d'être associé à un regroupement, il y a un sérieux avantage en ce qui a trait au référencement que les compagnies d'assurance vont vous envoyer, parce que c'est quoi? C'est 90 % du travail certain. Est-ce que d'être un indépendant qui n'est pas bannieré, ça s'en vient de plus en plus difficile?
Effectivement, c'est de plus en plus difficile aussi au niveau, surtout pour les cas assurance. Les assurances sont plus froides à l'idée là, de référer vers des garages qui ne sont pas bannierés. Ils n'offrent pas le même soutien au niveau de la garantie et tout ça, donc ça peut faire peur à certains particuliers, là. S'ils parlent à leurs assurances, puis ils disent « Oh, je vais aller à mon garage qui n'est pas bannieré », ben ils vont essayer de les décourager pour en fait protéger le client. Si jamais quoi que ce soit au niveau d'une réparation dans les années suivantes, la réparation. Mais il y a toujours moyen, lorsqu'on est allé dans un garage qui est bannieré, qui est associé à une compagnie d'assurance, bien là, on a le soutien des deux parties, là. Donc, soit la compagnie d'assurance ou le garage et la bannière, évidemment, là, qui vont être là pour aider le client à s'en sortir là-dedans. Parce que ça peut arriver des fois là, que certaines choses là, qui suivent un accident, mais généralement, ça se fait relativement bien, là.
La formation pour quelqu'un qui voudrait mettre le pied dans ce domaine-là, ça ressemble à quoi?
Au niveau de la carrosserie, il y a un DEP qui est offert. Il y a des programmes d'alternance travail-études aussi qui est offert. Là. C'est environ, si ma mémoire est bonne, là, c'est déjà plus de 10 ans là, que je l'ai fait, mais je crois que c'est 1500 heures environ, la formation pour avoir un DEP. Mais ensuite, évidemment, une formation continue là, tout au long d'une carrière de carrossier, là, c'est très bien vu aussi. Là, la technologie, comme je le disais, avance tellement rapidement. Il faut vraiment se tenir là, à l'affût des nouvelles choses, là, que ce soit au niveau des réparations, au niveau des nouveaux matériaux, des véhicules. Il faut rester à l'affût. Là, la technologie, elle n'arrête pas d'avancer, puis il faut suivre ça. Donc, la formation continue, on en a tout le temps.
On sait que dans le cas d'un mécanicien, lorsqu'il sort de l'école et qu'il veut aller travailler, bien, il doit la plupart du temps arriver avec son coffre, ce qui demande quand même de débloquer des sommes considérables. Dans le cas du métier de carrossier, comment ça se passe?
C'est le même principe un petit peu. Au niveau de la carrosserie, faut avoir ses outils à la base. C'est sûr que je connais pas beaucoup de garages qui vont fournir les outils. Ici, à l'interne, on fournit un coffre aux apprentis. Donc, on a pris à l'occasion des stagiaires qui est en alternance travail-études, puis on leur offrait la possibilité de leur prêter les outils. Donc, un coffre de base. Puis, ils pouvaient suivre leur formation avec ce coffre-là pour ensuite, une fois qu'ils sont engagés, bien, tranquillement, se faire leur trousseau. Là. Un petit peu comme quand on part en appartement. Tu sais, tu fais ton petit coffre, puis... pour aller acheter les outils que tu as besoin pour travailler ensuite.
Y a-tu des sous-spécialisations, par exemple, quelqu'un qui voudrait juste être peintre, quelqu'un qui voudrait juste être débosseleur? Est-ce qu'il y a de la concentration comme ça? Ou lorsqu'on suit une formation, c'est une formation générale qui englobe tout?
Le DEP, présentement, comment il est constitué, c'est vraiment global. Donc, ils vont toucher à tous les corps de métier qui touchent la carrosserie, là, que ce soit le débossage, la soudure, la peinture. Il y a même des petits volets au niveau de l'estimation pour bien comprendre la lecture de l'estimation.
Oui, puis c'est de plus en plus technique, ça.
Exactement. Donc, on touche à tout ça dans le DEP, dans la formation. Ensuite, il y a toujours possibilité de se spécialiser. Donc, si la personne décide de vouloir être peintre éventuellement, bien, il y a des formations là, de perfectionnement qui peuvent se donner par la suite, là, qui est complètement à part du DEP pour faire du perfectionnement, que ce soit pour les tricouches, Peu importe, là. Donc il y a des formations qui se donnent à part de ça aussi.
On sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs d'activité, dans beaucoup d'emplois qui sont traditionnellement très manuels. Est-ce que le domaine de la carrosserie doit aussi négocier avec cette pénurie de main-d'œuvre-là?
Effectivement, on ne s'en sauve pas. C'est très difficile de trouver des techniciens qui sont motivés, talentueux. On se cachera pas qu'on est toujours on est dans le même bateau que toutes les corps de métier manuels. Là. Donc, c'est difficile à trouver des gens là, de qualité et tout ça, oui.
Et pourtant, il y a moyen de bien gagner sa vie dans le domaine de la carrosserie.
Effectivement.
Il y a aussi, puis là, évidemment, t'en es la preuve vivante, il y a aussi de plus en plus de femmes qui s'inscrivent dans des cours comme ça. C'est la même chose en mécanique, en fait. Je me référais à l'EMEM, qui est l'École des métiers de Montréal, où on mentionnait qu'à chaque année, il y a de plus en plus de filles qui
Parce que traditionnellement, c'est très masculin, là.
Oui, mais en même temps, il y a vraiment un avantage au niveau du souci du détail. Et c'est ce qu'on m'expliquait à l'école, c'est qu'on constate que les filles sont plus soucieuses.
Plus minutieuses
dans certains détails et que ça vient changer un peu la dynamique. Est-ce que toi, tu as pu constater ça? Avez-vous d'abord des filles qui travaillent chez vous, autres que celles qui les dirigent?
Non, mais maintenant, non, on en a déjà eu, effectivement. Là, c'est pas quelque chose qui... C'est pas un choix qu'on fait d'en avoir ou de pas en avoir. En fait, on y va avec la demande que présentement.
Ouais.
Présentement, on n'en a pas de techniciennes femmes à l'atelier ici. C'est déjà arrivé qu'on en a eu. Au niveau de la différence, oui, on peut voir, comment je pourrais bien dire ça, autant que j'ai des hommes ici qui sont très minutieux plus que d'autres, qui vont faire plus des travaux, on appelle plus le rough.
Des gars de rough puis des gars de finition, c'est ça.
Exactement, ouais. Il y en a aussi chez les hommes. Il ne faut pas catégoriser nécessairement que bon, c'est parce que c'est une femme, elle va faire de la préparation, la peinture et tout ce qui est plus le détail. C'est sûr qu'on a un regard un peu différent des fois sur la finition là, complète, là, tu sais. Mais il y a des hommes aussi qui ont le même souci du détail. Faut pas généraliser. Là.
Non, c'est vraiment je prenais un commentaire qui venait d'un professeur en disant souvent, quand on regarde des filles travailler, ils ont une approche différente et ils ont un souci du détail. Ils voient pas les mêmes choses.
Okay.
Donc, lui, son œil de professeur faisait OK, c'est rafraîchissant, c'est quelque chose de différent. Donc, ça vient.
Et lui, ça modifie son enseignement, forcément.
Peut-être, mais en même temps, il dit ça vient compléter des fois des lacunes qu'on voyait pas, puis les deux qui se mélangent ensemble, bon, on n'embarquera pas dans ce que
ça peut faire.
Je veux dire, tu comprends, ça peut donner des résultats qui sont intéressants de travailler en symbiose, puis de voir des trucs.
Une belle complémentarité.
Exactement.
Oui, effectivement, je crois que les femmes ont leur place autant que les hommes, que ça pour les bons et les mauvais côtés, il y en a dans tous les métiers, là. Donc faut pas s'arrêter à ça, là. S'il y a des femmes qui sont vraiment intéressées par le domaine, puis c'est une passion pour eux autres, bien, ils ont leur place, ça c'est assuré.
Est-ce qu'il y a des mythes ou des fausses croyances du grand public en lien avec la carrosserie?
Il y en a. C'est sûr que c'est une méconnaissance plus qu'autre chose. Généralement, ce qu'on va voir le plus souvent, c'est des clients qui vont nous demander « Ah, ben là, vous avez la peinture déjà dans le gun, tu sais, étire-toi, puis ajoute telle pièce de plus, ça coûtera pas plus cher. » C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Chaque pièce doit être préparée, doit avoir une attention particulière. Quand on peinture, c'est pulvérisé, là, donc on peut pas juste envoyer la peinture un peu partout, puis ça règle le problème. T'sais, il y a une préparation derrière tout ça, une réparation qui doit être faite. Puis c'est de changer cette petite mentalité-là où des fois, les gens croient que c'est barre open là, parce qu'on s'en va vers les assurances. Ah, ils vont tout payer. Non, c'est très calculé. Là.
Autrement dit, s'il y avait déjà un dommage sur un véhicule, qu'il y en a eu un autre, tu pourrais réparer ça en même temps, ça paraîtra pas, l'assureur ne le saura pas.
Non, c'est
okay,
ça.
Ouais,
on travaille avec des photos, on est les yeux des assurances, il faut prendre des photos, leur envoyer. On peut déterminer là, si le dommage était déjà là ou non avant, ou si c'est complètement sur une autre pièce du véhicule du côté opposé. Il faut faire attention à tout ça. Là. Oui, il y a des coûts qui sont reliés à ça. Des fois, on peut appeler, il y a du chevauchement, on peut faire en même temps. Ça va diminuer le coût que si on le ferait seul, mais c'est pas, ça peut pas être inclus tout d'un coup. Là. Un véhicule qu'on va peindre, si on décide de peinturer trois pièces, on va calculer notre peinture pour peinturer trois pièces. On en rajoute une quatrième, mais on va faire plus de peinture pour la quatrième pièce. Donc, il y a des coûts reliés à tout ça. Là.
Évidemment, tu m'amènes sur le terrain des coûts. On a vu ces dernières années le coût des matériaux exploser littéralement. Et il y a aussi une variation très importante d'une simple couleur à une autre dans le cas de la peinture. On dit souvent que le rouge va coûter deux fois le prix, trois fois le prix d'un blanc traditionnel. Qu'est-ce qui explique ça et pourquoi les matériaux sont rendus aussi chers? Parce que repeindre une voiture aujourd'hui, on peut parler de facilement 3, 4, 5 000 $ là, à la base.
Minimum.
Là. Minimum.
Oh, oui. Oui, exactement. Tout dépendamment de la peinture, la couleur, la grosseur du véhicule, ça varie de beaucoup. C'est sûr qu'au niveau de la pigmentation, on a certaines bases, nous autres ici à l'atelier, qui sont excessivement chères. Pour une petite canne, ça peut être des centaines de dollars. Puis d'autres, un gallon, c'est le même centaine de dollars. Donc, ça varie selon la pigmentation là, de la couleur.
Est-ce qu'il y a des marques ou des modèles de véhicules qui sont plus faciles à réparer que d'autres?
Non, je suis pas prête à dire que des marques ou des véhicules qui sont plus faciles à réparer.
Moi, j'aurais posé la question différemment.
Y a-t-il des marques plus difficiles à réparer?
Y a-t-il des F-150 en aluminium qui sont plus touchés à réparer, c'est ça?
Ben, c'est des façons de travailler différentes, en fait. Ils ne sont pas plus touchés plus qu'il faut. Oui, c'est de l'aluminium, c'est différent. On travaille pas de la même façon sur l'aluminium que sur l'acier. Du moment qu'on a les connaissances et les équipements pour le faire, ça se fait très bien aussi, là. Donc, une bosse sur un aile en aluminium versus un aile en acier, il faut juste travailler différemment. Puis une fois qu'on sait comment le travailler, bien, ça va aussi bien. Là.
Par contre, il y a des couleurs qui sont plus difficiles à harmoniser que d'autres. Je pense au Soul Red de Mazda, qui est une couleur super populaire. Mazda a des rappels par rapport à cette peinture-là. Et les concessionnaires ont de la misère à être capables de marier les teintes parce que, justement, c'est une couleur assez complexe. Tu parlais tantôt de peinture trois couches. Qu'est-ce qu'il y a de complexe là-dedans au niveau du mariage, en bon français, de matcher les panneaux?
Bien, en fait, si on parle du Mazda en question, on tombe dans du clear teinté, qui est un 4 étapes là, rendu là. Oui, ça se fait. Il y a toujours moyen de se matcher. C'est sûr que même originalement, le véhicule sort avec différentes teintes. Là, qu'on parle des plastiques, du métal, on peut voir déjà des différences de l'usine. Donc, c'est sûr, quand on se rapproche pour faire une réparation de certains panneaux, des fois, on a du fil à retordre. Tu sais, faut travailler un petit peu plus fort pour aller chercher la bonne teinte. Puis, d'un angle à un autre aussi, la couleur varie énormément. Là, donc, quand on regarde le véhicule d'un certain angle versus on se déplace, on peut passer d'une couleur très claire à une couleur foncée. Donc, c'est de trouver le bon mariage à ce niveau-là. Là. Oui, c'est pas toujours facile.
Puis le mariage de la peinture, c'est pas uniquement celui qui va faire le mélange, mais aussi comment elle est appliquée. Donc, il y a différentes étapes pour arriver à avoir un match parfait. Là.
Oui, effectivement. Là, en fait, on va prendre deux, même 10 peintres là, avec la même peinture dans leur pistolet, puis ils vont nous faire des cartons différents. Donc, la couleur peut changer au niveau de la pression de l'air là, qui sort du fusil, autant que la distance qui fait le carton, là, ça va varier la couleur. Là.
Bon, évidemment, donc, Valérie...
Bon.
Évidemment, là, on se tutoie parce qu'on se connaît, parce qu'on travaille ensemble sur un projet qui est celui de rouler au suivant, où j'en apprends chaque fois que je me déplace dans l'atelier pour voir des voitures se faire réparer, se faire corriger. On n'en dira pas plus sur les projets à venir, mais ça m'a permis, moi, de mettre le pied dans un atelier de carrosserie, ce que j'avais pas fait depuis quand même un certain temps. Et ça m'amène à comprendre un peu plus comment tout le rouage de cette industrie-là fonctionne, ce que les gens ne voit pas, mais les gens sont quand même invités lorsqu'ils se présentent chez toi à arriver dans l'atelier d'estimation pour comprendre un peu comment tout ça va se faire. Est-ce qu'il y a des gens qui posent des questions ou est-ce que d'emblée ils font confiance à l'assureur les yeux fermés? Comment ça se passe?
D'emblée, les gens, ils posent pas tellement de questions. Ça va arriver qu'on pose des questions techniques, là, comment ça va être réparé.
Puis dans combien de temps je vais avoir mon auto? Ouais, ça doit ressembler à ça.
Exactement. Ouais. Puis on a beaucoup de variétés. Hein. On a des gens qui arrivent avec un côté d'auto à faire au complet, ils pensent que ça va être prêt la même journée. Puis il y en a d'autres qui ont une petite graphine sur le pare-choc, puis ils sont étonnés que c'est fait dans la même journée. Tu sais,
tout est une question d'attente. Oui, c'est ça.
Exactement. Donc c'est sûr que c'est là où est-ce que notre rôle est important, de mettre les attentes claires aux clients à la base, de bien leur expliquer c'est quoi les étapes à faire pour réparer leur voiture, pour qu'ils ne s'attendent pas à voir le véhicule le lendemain quand ils ont 50 heures d'ouvrage dessus. C'est un peu irréaliste. Mais sinon, dans l'ensemble, ils font confiance. Ils font confiance aux ateliers de carrosserie, à leur assurance. Ils nous laissent le véhicule, puis ce qu'ils recherchent, c'est un client en main. Donc, je vais porter ma voiture, puis je vais venir la rechercher. Elle va être... toute parfaite, là, puis j'ai pas de soucis, là. Donc, c'est vraiment ce que la clientèle recherche, puis c'est ce qu'on essaie d'apporter le plus possible.
Bien, merci, Valérie, d'avoir pris le temps de nous parler. On rappelle que vous êtes la bannière Fix Auto de Saint-Jean-sur-Richelieu du groupe Morin. Alors, merci d'avoir pris le temps, et puis à bientôt. On va se recroiser très prochainement. Peut-être que je vais te mettre un peu de pression pour que tu me fasses un complet en 24 heures.
Merci. Merci, Valérie.
Merci à vous. Passez une belle journée. Au revoir.